Plusieurs semaines, plusieurs mois à étudier ensemble cette petite épître qui, nous l'avons vu, nous dit en fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments dedans. Et aujourd'hui, c'est la fin de cette épître qui va nous intéresser, la fin du texte. Alors, je le rappelle, pour celles et ceux qui ne savent pas où se trouve l'épître de Tite, c'est une toute petite épître qui fait que 3 chapitres, qui se trouve à la fin de votre Bible. Avant une autre petite épître qui s'appelle Philémon et avant et après les 2 petites épîtres à Timothée. Donc c'est une épître de l'apôtre Paul et nous allons conclure aujourd'hui ce qu'il dit à son enfant dans la foi, comme il l'appelle, Tite. La dernière prédication, nous étions concentrés sur le fait de vivre l'Évangile avec pour objectif d'accomplir de bonnes œuvres. Et donc les bonnes œuvres, ça fait un moment qu'on se rend compte que c'est un refrain qui revient tout au long de l'épître. Et le dernier texte ne va pas réchapper à cette continuité. J'ai intitulé le message « Quand l'inutile produit la division ». Nous allons parler ce matin de division, mais aussi d'unité. Et comme quoi le Seigneur fait bien les choses, car souvenez-vous du premier chant que nous avons chanté ensemble, « Pardon Seigneur, pardon », comment il conclut ?« Nous voulons l'unité ». Ah, bah ça tombe bien. Sans s'être concerté, c'est le sujet même de la prédication, comme quoi le Seigneur fait très bien les choses. Accomplir des œuvres bonnes est un objectif commun, nous l'avons vu, une mission de chacun d'entre nous, une mission de l'Église. Voilà ce qui est bon et utile, nous dit l'apôtre. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce qui ne l'est pas utile. Beaucoup de choses, mais ici, il y a un aspect particulier de la foi chrétienne, et ça va vous surprendre, la théologie biblique. C'est surprenant, qu'est-ce que tu nous racontes, Paul ? En quoi la théologie biblique ne serait pas bonne et utile pour les croyants ? Vous l'aurez compris, c'est une remarque provocante de ma part. Certains, peut-être, répondront dans leur cœur « La théologie, ça sert à rien. Il vaut mieux se concentrer sur notre relation avec Dieu et sur la foi. » Oui, la relation avec Dieu et la foi sont évidemment de bonnes choses, mais ces 2 éléments impliquent forcément la théologie. Comment avoir une relation avec un Dieu si on ne cherche pas à savoir qui il est, ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, et quelle est sa volonté? Ça n'a pas de sens. Et comment avoir la foi si on ne sait même pas ce que c'est ou qu'on ne cherche pas à la nourrir? Là encore, ça n'a pas de sens non plus. Vous l'aurez compris, c'est un peu plus compliqué que ça. Comme dans beaucoup d'activités, il y a des bonnes choses comme il y en a des mauvaises. On peut par exemple penser à faire du sport. Faire du sport, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais savez-vous qu'on peut devenir dépendant du sport ? Ça s'appelle la bigorexie. C'est l'addiction à l'exercice physique. C'est-à-dire qu'on est obligé d'en faire. On ne peut plus s'en passer. Là, ce n'est peut-être plus une très bonne chose. Je vous propose alors ce matin de voir 3 zones de contamination par une théologie inutile. Et j'insiste sur le « inutile ». Vous l'aurez compris. La première zone d'expansion, c'est notre cœur, de manière individuelle. Puis on va aller un peu plus large, on va élargir. Frères et sœurs qui sont réceptifs à la même chose que nous. Et enfin, la contamination de l'Église dans son ensemble. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Tite au chapitre 3, là où nous étions arrêtés la dernière fois. Et nous sommes au verset 9. Dont je fais la lecture. Tite 3, verset 9. Donc c'est toujours Paul qui s'adresse à Tite et voici ce qu'il dit. « Mais évite les spéculations absurdes, l'étude des généalogies, les disputes et les polémiques au sujet de la loi, car elles sont inutiles et vides de sens. » Et on va déjà s'arrêter là. L'apôtre cite 4 choses inutiles et vaines, vides de sens, comme il le dit lui-même. La première, ce sont les spéculations absurdes. Alors, pas celles qui sont utiles et qui nous édifient, vous l'aurez compris. mais celles qui sont insensées, absurdes. Car oui, on peut se perdre dans les méandres de réflexions techniques et complexes. Au temps de Paul, il y avait, nous le savons, des discussions folles concernant les aliments purs et impurs, l'observation des sabbats et des jours saints, toutes d'ailleurs caractérisées par leur intérêt pour la loi mosaïque, donc la loi de Moïse, loi que Dieu a donnée. S'intéresser à la loi que Dieu a donnée à Moïse, l'étudier pour mieux comprendre la personne de Dieu, pour mieux comprendre sa volonté, pour mieux comprendre le péché, ou encore éclairer la nouvelle alliance, toutes ces choses-là sont évidemment excellentes. C'est une bonne chose. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop fermer l'Ancien Testament, mais qu'il faut au contraire l'étudier. Regardez ce qu'il nous dit de Dieu. Regardez ce qu'il nous dit de la relation que nous avons avec Dieu. Regardez ce qu'il nous dit de l'alliance que nous venons de célébrer et que nous avons avec Dieu aussi. Mais ici, l'intérêt a changé. Les discussions prennent une autre dimension. Elles deviennent folles et l'intérêt qu'on en tire devient, je vais être modeste, discutable. En fait, la question à se poser, c'est quel est le but ? Et le sujet, il est là. Étudier les Saintes Écritures est une bonne chose, mais quelle en est la motivation ? Est-ce pour manifester aux autres notre intelligence ? Ah, moi je sais. Est-ce que c'est pour nourrir une simple curiosité ou est-ce une question d'ego ? En tout cas, pour l'apôtre, voici des questions qui sont inutiles et vaines. L'étude des généalogies. On argumentait sur les généalogies angéliques aussi bien qu'humaines. Il s'agissait en fait de spéculations sur les origines des descendants des patriarches qui sont cités en Genèse 4 et 5 et en Genèse 9 à 11. Et donc ça faisait plein de débats, des spéculations, des discussions diverses et variées, mais qui n'apportent en fait rien du tout. Paul évoque le même problème en 1 Timothée, chapitre 1, verset 3 à 9. Il dit ceci, « En partant pour la Macédoine, je t'ai encouragé à demeurer à Éphèse, pour avertir certains de ne pas enseigner des doctrines étrangères à la foi, qu'ils cessent de porter leur intérêt à des récits de pure invention et à des généalogies interminables. Des préoccupations comme celles-ci font naître des spéculations au lieu de nous aider dans les responsabilités que Dieu nous confie dans l'œuvre de la foi. » En fait, c'est le but qui est ciblé ici. Ce sont des réflexions inutiles et vaines. On peut étudier ce sujet sans fin, car il n'y a pas de limite à une interprétation allégorique des généalogies. On peut en dire tout et son contraire. Elles étouffent la vie spirituelle. Elles n'offrent rien d'utile pour l'administration des choses de Dieu. Et les faux enseignants ne font pas avancer l'œuvre du Créateur. Notons quelque chose d'intéressant sur les généalogies bibliques. Elles sont sobres. Elles sont sobres. Tous les membres de la généalogie n'apparaissent pas. On saute parfois des générations. Mais le livre juif des Jubilés, qui n'est pas un livre canonique, ajoute des personnes aux généalogies. Et cela a alimenté des débats qui étaient déjà bien stériles. Il est peut-être plus utile de se pencher sur notre généalogie personnelle, du point de vue de Dieu. Je ne parle pas du point de vue familial. Quant à la chair, l'apôtre Paul nous dit que nous étions fils d'Adam et condamnés comme lui. Mais quant à l'esprit, nous sommes devenus par adoption fils de Dieu. Ça, c'est notre généalogie spirituelle. Ça, c'est intéressant. Ça dit quelque chose de nous, ça dit quelque chose de notre relation avec Dieu qui est devenu notre Père. Troisième sujet, les disputes. On en a déjà parlé au chapitre 1. Paul vise ici le fait de se disputer sur des sujets qui sont peu importants. Les prises de position fermes sur ces sujets peuvent conduire à des attitudes parfois hostiles et engendrer là encore des disputes qui sont inutiles. Nous sommes plutôt encouragés dans la parole à faire preuve d'amour, de douceur, de patience, c'est autre chose que de se disputer, surtout sur des sujets qui servent à rien. Quatrièmement, les polémiques. Alors, ici, l'apôtre fait très probablement allusion aux discussions nombreuses et interminables et desséchantes des rabbins de la loi. Au lieu d'appliquer la parole de Dieu au cœur et aux consciences, elle nourrissait seulement l'intelligence humaine. J'ai soulevé la question du but, de l'objectif, d'avoir et d'entretenir ces sujets. Pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? Il y a quoi derrière? Je crois qu'il y a un risque ici sérieux d'orgueil. Chercher pour savoir ce que personne ne sait, ou bien montrer qu'il y a plus de connaissances, d'intelligence, voilà de quoi nourrir notre orgueil. Paul conclut ainsi dans un chapitre de Romains, mais là je ne sais plus lequel. Et l'orgueil pour le royaume de Dieu, voilà quelque chose qui ne sert strictement à rien du tout. Le Seigneur ne résiste-t-il pas aux orgueilleux? Et ne fait-il pas grâce aux humbles? Il y a là, ici, en fait, en filigrane, une mise en garde. Oui, le diable peut s'insérer dans ce type de débat qui semble bon de prime abord. Eh bien oui, on étudie la parole. Mais qui constituent en fait des pièges pour notre foi. Pensons à ce que disait le Seigneur, à être comme des petits-enfants, les accepter par la foi. Si vous n'êtes pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. À l'époque de Paul, on se disputait à propos des règles compliquées qui avaient été ajoutées à la loi. Les partisans se plaisaient à polémiquer et se glorifiaient de ce qu'ils appelaient la connaissance. Mais ils se perdaient en discours creux. L'insistance sur la loi souligne que l'hérésie a un enracinement juif, la loi. Mais son mépris pour la matière et le corps, alors je l'admets, c'est peu présent dans Tite. Mais c'est une composante de l'hérésie rapportée dans les autres épîtres pastorales, notamment dans Timothée. Et elle révèle, elle, une autre influence, l'influence grecque. C'est l'aube de ce qu'on appelle le gnosticisme, qui prendra en cohérence plus tard, pour la faire de manière très vulgarisée, c'est un salut par la connaissance. Ce que nous ne croyons évidemment pas. Dans l'Église d'aujourd'hui, on peut retrouver ce type de procédé pour d'autres sujets. La scène qu'on vient de la prendre. On met du vin ou du jus de raisin? Polémique, dispute. Ou alors encore accorder trop de place à la politique quand la politique entre dans l'Église. Ou encore imposer des dogmes sur des bases absolument spéculatives. Ça aussi, on le voit. Alors, comprenons bien. Sur la doctrine biblique fondamentale, il faut faire preuve de fermeté. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. Si on ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, alors on n'est pas chrétien, point final. Il faut faire preuve de fermeté. Mais il existe d'autres sujets qui sont, eux, plus ouverts et qui ne méritent pas des prises de position qui peuvent conduire à des disputes, à des blessures ou au mépris de celui qui pense différemment. Au sein du collège d'anciens, dans cette église, nous avons quelques divergences sur des sujets mineurs. Pour autant, ça ne nous empêche pas d'être unis. Et ça, c'est important. D'autres sujets plus ouverts ne méritent pas des prises de position qui peuvent conduire à des disputes, à des blessures, au mépris de celui qui pense différemment. Cette semaine, il y a eu le centre évangélique et le thème, c'était « L'Église une ». Ensemble avec nos différences. Ça doit nous faire réfléchir. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et il y a des choses qu'on n'accepte pas et qu'on devrait plus nuancer, être plus dans la douceur. Tout cela, cette attitude-là, cette réflexion-là, elle peut naître dans le cœur. Car oui, le péché fait naître en nous toutes sortes de désirs. Et le piège ici, c'est de nous cacher derrière une bonne volonté qui est l'étude de la parole. Mais le sujet la manière et l'objectif, eux, peuvent ne pas être bons. Maintenant qu'on a cerné le départ de tout ça, regardons l'expansion du problème, on élargit. On a vu le cœur, maintenant des frères et sœurs qui sont réceptifs. Lisons la suite, les versets 10 à 11. Si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois, deux fois, puis écarte-le de l'Église. Car tu peux en être certain, un tel homme est sorti du droit chemin, il fait le mal et se condamne ainsi lui-même. On va s'arrêter là. Après s'être convaincu de quelque chose, une personne peut semer le trouble dans une assemblée. Paul s'attaque ici à un type de personne, celui qui provoque des divisions. Mais regardons un peu comment il les provoque. Premièrement, il va distiller des idées différentes. Quand on arrive dans une église, il est important de prendre rapidement connaissance de ce que les membres de la communauté croient. C'est ce qu'on appelle leur confession de foi. Alors souvent, on peut la trouver à l'entrée d'une église ou sur le site internet. Avant de visiter une église, on peut déjà avoir une idée de là où on va mettre les pieds, de ce que les gens croient. Les églises peuvent avoir des différences de point de vue, et si vous avez un peu connaissance du paysage évangélique en France, vous le savez déjà. Car il y a diversité de communautés avec des pratiques parfois très diverses, très différentes. Ce qu'il faut regarder avec attention, c'est la doctrine de l'Assemblée. En tant qu'évangélique, ce qui va nous intéresser, évidemment, j'espère que c'est votre cas, c'est la conformité de cette doctrine avec l'Écriture, ce que nous reconnaissons comme parole de Dieu, autorité suprême. Si nous ne sommes pas d'accord avec la doctrine d'une communauté, lorsque cela est possible, il est préférable de se rattacher à une autre communauté plus en accord avec nos convictions. Alors, malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue, on ne manque pas de choix dans nos milieux protestants évangéliques en région parisienne. Il y a beaucoup d'églises, quand même. Peut-être moins en province ou parfois dans un endroit, il n'y a qu'une seule église et là, on n'a pas le choix. Malgré ces dispositions, on peut avoir au sein d'une église quelqu'un qui va prôner une autre doctrine ou un changement majeur aux conséquences importantes. Deuxième attitude, cette personne va attirer un groupe à lui. Et j'insiste sur le « à lui ». Ces idées vont influencer des personnes et cela va conduire l'unité de l'Église à se fissurer. Certains vont alors se rallier aux idées de la personne et d'autres vont s'opposer. Ça va créer des clans. C'est dans ce genre de situation qu'il y a un risque, celui de s'accrocher à une personne. Je suis d'un tel ou d'un autre, et on se retrouve avec des clans qui prennent parti pour des personnes différentes. C'est ce qui s'est passé à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 1, verset 10-13. C'est Paul encore qui parle. « Il faut cependant, frères et sœurs, que je vous adresse une recommandation instante. » Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais, pas au nom de quelqu'un d'autre. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. En effet, mes frères et sœurs, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Pour moi, c'est Paul. Pour moi, c'est Apollos. Ou pour moi, c'est Pierre. Ou encore pour moi, c'est Christ. Voyons. Christ serait-il divisé? Paul aurait-il été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Notre chef, je vais être extrêmement clair là-dessus, notre chef, c'est Christ. Pas un homme d'église, aussi respectable soit-il. Troisièmement, après avoir amené un groupe à lui, ceux qui ne pensent pas comme lui vont être écartés. Celui qui cause des divisions joue un jeu politique dans lequel ceux qui ne pensent pas comme lui n'ont pas leur place dans l'église, dont il se veut le leader. Ici se pose la question de l'autorité sur une seule personne. Elle ne réside pas dans ce qui est visible, un beau charisme, de la prestance, quelqu'un qui parle bien, mais elle réside dans l'attitude de soumission à Christ et à sa parole. C'est à ça qu'on reconnaît l'autorité de quelqu'un. Elle réside dans celui qui fait preuve d'humilité dans sa mission pour l'avancée du royaume de Dieu. Pas dans quelqu'un qui parle juste fort pour se faire entendre. Enfin, plutôt que d'abandonner ses idées, il préférera la division de l'assemblée. Tout chrétien doit avoir la capacité de se remettre en question. On peut se tromper et faire des erreurs. C'est un fait, nous sommes tous concernés ici. Celui qui me dit « je ne me trompe jamais », je ne le croirai pas. Ce qui compte, c'est de savoir le reconnaître, de savoir demander pardon si c'est nécessaire et d'évoluer en maturité avec la parole de Dieu. Mais pour celui qui cause des divisions, l'orgueil le pousse à ne pas reconnaître ses erreurs, mais plutôt à persévérer dans ses propres idées, quitte à diviser. En fait, c'est sa personne plutôt que l'Église du Christ. Certaines églises cherchent parfois une personnalité forte pour les conduire. Et ces situations peuvent amener à une forme de pouvoir centralisé sur une personne qui influencera l'Église, parfois en bien ou parfois en mal. Le risque est de regarder à cette personne plutôt que de regarder à Christ. Il faut donc faire preuve de vigilance, vérifier si l'enseignement est conforme à la parole. Parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir humain, on n'est pas là dans un putsch, hein. Il faut user du discernement afin d'évaluer les spéculations et préserver l'unité de l'Église. Et c'est là l'importance des anciens, l'importance de ce que Paul écrit à Tite au chapitre 1 quand il dit « Il faut que tu nommes des anciens dans l'Église ». On avait déjà parlé de leur mission, mais c'est ici un rappel. Paul a commencé par là, il conclut par là. Les anciens ont un rôle à jouer. Pousser celui qui est concerné, celui qui commence à semer le trouble, à abandonner ce qui comporte un risque sérieux de division. S'il refuse une fois, avertis-le une seconde fois. Il y a là de la patience qui est demandée. Avertis-le une seconde fois. Il faut rechercher, c'est la personne, la repentance de celui qui est averti. Mais s'il refuse encore, alors il doit être exclu de la communion de l'Église. Et les chrétiens doivent éviter le contact avec lui. Le temps de sa repentance est un retour à l'équilibre. En fait, il y a là le garde-fou en plusieurs étapes. Car oui, comme je l'ai dit, l'erreur est humaine, car nous sommes des pécheurs. Mais le problème ici est le fait de persister dans l'erreur. Et c'est pourquoi on ne doit pas rejeter d'emblée, mais faire preuve de compassion. Puis dans un troisième temps, pas le deuxième, dans un troisième temps, de fermeté. Après la naissance du péché dans le cœur et sa contamination parmi les frères et sœurs qui sont réceptifs, nous commençons à voir l'effet sur la troisième zone de contamination, c'est l'Église. Ce qui est en jeu, c'est l'unité de l'Église, vous l'avez compris, un élément crucial que tout chrétien doit considérer avec beaucoup de sérieux. Si l'unité est menacée par un homme, c'est donc qu'il constitue une menace pour l'Église de Christ. Ce type d'homme est décrit par l'apôtre comme perverti. Il pêche en cherchant à diviser le corps du Christ. Il se condamne lui-même en s'entêtant dans son iniquité après avoir été averti, pas à une reprise, à deux reprises. Beaucoup de chrétiens désertent les églises après une division ou des moments compliqués. L'idée souvent retenue est la suivante. Les chrétiens sont censés prôner l'amour et surtout le vivre. Mais ils se montrent blessants, orgueilleux et même moins agréables que des non-croyants. Alors, si l'église c'est ça, il est préférable de s'en passer. C'est pas un discours rare, hein. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. Pas ici, mais de chrétiens qui ne vont plus à l'église. Oh, j'y vais plus. J'ai vu tellement de choses. Si c'est ça l'église, pff, allez, c'est bon. Mais cela met le doigt sur notre responsabilité commune. Et ce, malgré la difficulté des relations humaines. Moi, on m'a toujours dit, quand tu vas rentrer dans le ministère, le plus dur que tu vas rencontrer, c'est les relations humaines. Ça sera toujours les défis de l'Église, peu importe où tu seras. Il y aura toujours des tensions entre les gens, ils ne se comprennent pas, des problèmes de communication. Ça sera toujours ton problème numéro un. Notre responsabilité commune, et ce malgré les difficultés des relations humaines. Oui, nous sommes des pécheurs, des êtres imparfaits qui blessent, des personnes sur le chemin difficile de la sanctification, avec parfois des relents du péché. Et il arrive que la blessure infligée soit si profonde qu'elle coupe la communion que nous devons nous efforcer d'entretenir. C'est pourquoi, je le répète encore, l'humilité, la repentance, le pardon ne sont pas négociables dans le corps du Christ. Ce n'est pas une option. L'humilité, la repentance, le pardon, c'est un devoir. Ils sont vitaux pour l'Église. Si les responsables de l'Église doivent veiller à son unité, ce n'est pas seulement leur affaire. Car la responsabilité de tous les chrétiens est engagée. C'est notre affaire à tous. Nous devons tous veiller à notre humilité, tous faire preuve de douceur et de patience pour nous supporter tous avec amour. Voilà la clé de l'unité de l'Église. Car cette unité repose sur un fondement bien plus grand et plus important qu'une simple association cultuelle. L'Église, c'est l'œuvre du Seigneur. Il l'a fondée sur ses apôtres pour constituer son corps spirituel. L'Église, c'est l'épouse du Seigneur qu'il s'est choisie et pour laquelle il est mort. C'est ce que nous avons fêté en prenant la scène ensemble. C'est pourquoi elle doit être unie malgré les difficultés. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire que ça doit être un objectif commun, tous concernés. Paul en parlait bien mieux que moi, hein. Évidemment, c'est la parole de Dieu, en Éphésiens chapitre 4, les 6 premiers versets. « Moi, je suis prisonnier à cause du Seigneur. Je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. C'est magistral, ça. Hein ? Alors, en conclusion, la théologie biblique est nécessaire pour grandir dans la foi, pour grandir en maturité spirituelle. Dieu s'est révélé à nous par sa parole, et ce que les auteurs bibliques ont écrit sous son inspiration est utile pour nous enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. C'est ainsi que l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne, 2 Timothée 3, 16, 17. Mais celui qui l'étudie peut tomber dans un piège, celui de perdre cet objectif saint pour lui préférer l'intelligence humaine et la recherche inutile. Non seulement ces recherches inutiles n'apportent rien, mais pire encore, elles peuvent être source de division et finalement, servir les intérêts de notre ennemi commun, j'ai nommé le diable. Nous devons être vigilants. Le péché qu'on soit dans le cœur, parfois même sans nous en rendre compte. Hein. Puis il commence à se propager parmi quelques personnes qui adhèrent au discours d'un seul, pour enfin détruire l'unité à laquelle l'apôtre nous appelle. C'est pourquoi Paul nous demande d'éviter ces sujets vides de sens, d'avertir à plusieurs reprises, s'il le faut, celui qui les distille, pour enfin, si cela ne produit rien, écarter ce personnage de l'Église pour la préserver et pour le pousser à un examen personnel qui, nous l'espérons, produira la repentance et l'humilité. N'est-ce pas ce que dit l'Écriture ? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je conclus donc l'épître que Paul écrit à Tite, verset 12 jusqu'à la fin, verset 15. « Quand je t'aurai envoyé Artémas ou Tichique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le juriste, et d'Apollos, afin que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à accomplir des œuvres bonnes, tiens, encore une fois, pour faire face à tout besoin et toute nécessité. Ainsi, leur vie ne sera pas improductive. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. » De nouveau apparaît l'expression « les œuvres bonnes », le refrain de l'épître de Tite. Alors le contexte, c'est intéressant, nous donne les clés de ces œuvres-là, de ce verset. L'assistance matérielle. Autrement dit, prendre soin des missionnaires. Il faut qu'il ne manque, assure-toi qu'il ne manque de rien. En fait, les œuvres bonnes ne sont pas seulement les bonnes pratiques religieuses. Mais il y a aussi du concret dans les œuvres bonnes. Celui de comprendre les besoins des uns et des autres et d'y pourvoir quand c'est possible. Notamment de ceux qui s'investissent pour le royaume de Dieu. Un jour, un ami proche m'a dit « On voit la vision d'une église à la réponse qu'elle donne si elle reçoit un gros chèque. » Ça m'avait interpellé. Il m'avait dit « Que ferait ton église si vous recevez une dotation de 200 000 euros ? Vous les mettrez où ?» C'est là qu'on va voir votre vision. Ça m'avait interpellé. Et il y a quelque part une part de vrai, je crois, dedans. Où est-ce qu'on mettrait tout cela ? Est-ce qu'on les mettrait dans le bâtiment pour l'agrandir, etc. ? Où est-ce qu'on le placerait ? Ou est-ce qu'au contraire, on aiderait peut-être des serviteurs du Seigneur qui sont peut-être dans la précarité ? C'est une question intéressante, je trouve. Autrement dit, les bonnes œuvres s'inscrivent dans tous les aspects de notre vie. Tout comme la place importante de ce thème tout au long de l'Épître. Alors je vous laisse avec cette question des priorités dans nos vies. Faut-il porter du fruit des bonnes œuvres pour le monde ou porter du fruit des bonnes œuvres pour le Seigneur ? Et je nous conclue avec cette phrase toute dernière de l'apôtre Paul : « Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Amen. »